Bienvenue à tous dans notre Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui touche tous les athlètes, les blessures sportives du bassin.
Ouais.
Plus précisément, on va plonger dans les traitements et la rééducation. Imaginez, vous êtes au top de votre forme et bam, une blessure au bassin vous met sur la touche. On va décortiquer tout ça ensemble.
Absolument. Le bassin, c'est la base. Littéralement, c'est le fondement de notre posture et la plaque tournante pour transmettre la force dans chaque mouvement.
Ouais.
Quand il y a une faille dans ce système, ça peut avoir un impact énorme sur la performance.
Exactement. On parle de tout un éventail de blessures, des simples contusions, problèmes plus complexes comme le dysfonctionnement sacro-iliaque.
Oui.
Pour bien comprendre, on va commencer par les bases.
D'accord.
Décrivez-nous un peu l'anatomie du bassin.
Bon, on peut visualiser le bassin comme un bol osseux, un peu comme une structure en forme de coquille qui relie le haut et le bas du corps.
OK.
Il est composé des deux os iliaques, du sacrum et du coccyx à l'arrière.
Et du pubis qui ferme le cercle à l'avant.
OK.
Et bien sûr, il y a les articulations, les ligaments et tout un réseau de muscles qui s'y rattachent.
Et parmi tous ces muscles, lesquels sont les plus importants pour les athlètes? On pense souvent aux abdos.
Oui.
Mais il y a bien plus que ça, non?
Oui, c'est ça. Les abdos sont importants, mais pour le bassin, il faut penser aux fessiers. Le grand, le moyen et le petit fessier. Ils sont responsables de l'extension, de l'abduction et de la rotation de la hanche. Imaginez un sprinter qui pousse sur ses jambes. Ce sont les fessiers qui sont au cœur de l'action.
Ah oui, je vois. Et en plus des fessiers, quels autres muscles sont essentiels?
On a aussi les adducteurs qui rapprochent les cuisses et stabilisent le bassin lors des mouvements latéraux. Pensez à un joueur de tennis qui change de direction rapidement. Les adducteurs travaillent dur pour maintenir l'équilibre.
Ouais.
Et bien sûr, il ne faut pas oublier les fléchisseurs de la hanche, comme le psoas iliac, qui sont essentiels pour lever la jambe. Ouais. Et là, on arrive aux muscles profonds du bassin, ceux dont on entend moins parler, mais qui sont tout aussi importants, non?
Exactement. Ces muscles profonds, on ne les voit pas, mais ils sont essentiels pour la stabilité et l'alignement du bassin.
Okay.
Ils contrôlent les mouvements subtils et aident à maintenir une bonne posture, ce qui est crucial pour prévenir les blessures.
Ouais.
Imaginez un danseur qui effectue des mouvements complexes. Ces muscles profonds sont en action constante pour assurer la fluidité et la précision.
Donc le bassin, c'est bien plus qu'une simple structure osseuse.
Ouais.
C'est un centre névralgique pour le mouvement et la stabilité.
Mmh.
Mais comment ces fameuses blessures surviennent-elles? Est-ce qu'il y a des causes plus fréquentes que d'autres?
On peut distinguer deux grandes catégories de mécanismes de blessure.
Mmh.
D'abord, les traumatismes directs, comme un choc violent lors d'un match de rugby, une chute à vélo ou une collision.
Ouais.
Ce genre d'impact peut provoquer des contusions, des fractures osseuses ou des déchirures ligamentaires.
Aïe, ça fait mal rien que d'y penser.
Et l'autre catégorie. Il s'agit de la surcharge répétitive et des micro-traumatismes. Imaginez un coureur de fond qui enchaîne les kilomètres, un joueur de tennis qui répète ses services ou un danseur qui travaille ses pirouettes. Ces mouvements répétés, même s'ils semblent anodins, peuvent engendrer de minuscules traumatismes.
Ouais.
Avec le temps, ils finissent par endommager les muscles, les tendons et les articulations du bassin.
C'est l'usure, en quelque sorte.
Exactement. Ce qui est sournois, c'est que ces micro-traumatismes peuvent passer inaperçus pendant un moment. L'athlète continue de s'entraîner, ignorant les signaux d'alarme, jusqu'au jour où la douleur devient insupportable.
Hey.
Et à ce stade, on se retrouve souvent avec une blessure chronique plus difficile à soigner.
Ouais.
D'où l'importance de comprendre les symptômes et de consulter rapidement.
Justement, parlons des symptômes. Si on est un athlète, à quoi doit-on faire attention? Quels sont les signes avant-coureurs d'une blessure au bassin?
Le symptôme le plus évident, c'est la douleur.
Ok. Elle peut être aiguë et intense après un traumatisme direct ou sourde et persistante en cas de surcharge répétitive. La douleur peut être localisée au niveau du bassin, mais elle peut aussi irradier vers les hanches, les fesses, le bas du dos ou même l'aine.
Ouais.
Et c'est là que ça peut devenir compliqué. La douleur n'est pas toujours un indicateur fiable de l'emplacement exact de la blessure.
Et c'est vrai, on peut facilement se tromper sur l'origine de la douleur. Y a-t-il d'autres symptômes qui peuvent nous alerter?
Oui, absolument.
Okay.
En plus de la douleur, vous pourriez ressentir une raideur articulaire, une limitation de mouvement, une sensation de faiblesse dans les jambes ou même une instabilité du bassin.
Ouais.
Comme si tout allait se déboîter.
Ouais.
Le sentiment de déboîtement peut être très déstabilisant pour un athlète.
Oui, c'est assez effrayant comme sensation. Et est-ce qu'il faut s'inquiéter si on remarque un gonflement ou des ecchymoses?
Oui, surtout après un traumatisme, il faut surveiller l'apparition de gonflements ou d'ecchymoses.
Tous ces symptômes doivent être pris au sérieux.
Ouais.
Plus on attend pour consulter, plus la blessure risque de s'aggraver et plus la rééducation sera longue et complexe.
Bon, on l'a compris, il faut être attentif aux signaux de son corps.
Oui.
Mais disons qu'on soupçonne une blessure au bassin, comment on fait pour la diagnostiquer avec certitude? Est-ce qu'une simple radio suffit?
Pas toujours.
OK.
Le diagnostic commence par un examen clinique approfondi. Le médecin va vous poser des questions sur vos antécédents sportifs, le mécanisme de la blessure et vos symptômes.
Ouais.
Il va ensuite palper votre bassin pour identifier les points douloureux et évaluer l'amplitude de vos mouvements.
D'accord.
Ensuite, on utilise l'imagerie médicale pour confirmer le diagnostic.
Et en parlant d'imagerie, quels sont les examens les plus utilisés?
Les radiographies sont souvent la première étape. Elles permettent de visualiser les os du bassin et de détecter d'éventuelles fractures. L'échographie est utile pour examiner les tissus mous, comme les muscles et les tendons. Et dans les cas plus complexes, une IRM ou un scanner peuvent être nécessaires pour obtenir une image détaillée des structures du bassin.
Donc on a un diagnostic précis. On sait ce qui ne va pas.
Voilà.
Et ensuite, comment on traite ces blessures? Assez doxé. C'est là qu'on arrive au cœur du sujet, non?
Tout à fait. C'est là que ça devient intéressant. On m'a parlé des différentes approches thérapeutiques, des plus classiques aux plus innovantes.
Génial.
Mais avant de plonger dans les détails, on va faire une petite pause.
OK.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre deep dive. On est de retour pour la suite de notre deep dive sur les blessures sportives du bassin. Juste avant la pause, on parlait du diagnostic. Une fois qu'on sait ce qui ne va pas, comment on traite ces blessures?
Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Parlons des traitements.
Est-ce
qu'on commence toujours par la case médicaments?
Pas forcément, mais la gestion de la douleur est souvent la priorité dans la phase aiguë de la blessure. L'objectif, c'est de soulager l'athlète rapidement et de lui permettre de retrouver une certaine mobilité.
Donc les médicaments anti-inflammatoires et les antalgiques ont toujours leur place.
Oui, bien sûr, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AS aident à réduire l'inflammation et la douleur, tandis que les antalgiques soulagent la douleur plus intense. On peut aussi utiliser des relaxants musculaires pour détendre les muscles contractés et spasmés. Mais attention, les médicaments ne sont qu'une partie de la solution. Il ne faut pas oublier les autres aspects du traitement.
Et le repos, c'est toujours d'actualité. On a souvent tendance à vouloir rester actif, même quand on a mal.
Oui, le repos est essentiel, mais attention, on parle de repos contrôlé. L'immobilisation totale est rarement recommandée car elle peut entraîner une raideur accrue et retarder la guérison.
Ouais.
On préconise plutôt un repos relatif en évitant les activités qui sollicitent trop le bassin, tout en maintenant une certaine mobilité.
D'accord.
Par exemple, on peut remplacer la course à pied par de la natation ou du vélo, qui sont des activités plus douces pour les articulations.
Donc, on bouge un peu, mais sans forcer.
Voilà.
Et la fameuse glace, elle a toujours sa place. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, on répétait de la glace sur tous les bobos.
Oui, la glace est toujours un grand classique. L'application de glace sur la zone blessée permet de réduire l'inflammation et de soulager la douleur. On recommande généralement des applications de 15 à 20 minutes plusieurs fois par jour, surtout dans les premiers jours après la blessure.
Ouais.
C'est simple, efficace et accessible à tous.
D'accord. Donc on a les médicaments, le repos relatif et la glace pour gérer la douleur.
Oui.
Mais qu'en est-il des traitements plus spécifiques?
On entend beaucoup parler de nouvelles technologies comme le laser ou les ondes de choc. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Oh, pas du tout.
Avec plaisir. Les technologies de stimulation tissulaire, comme la thérapie au laser et la thérapie par onde de choc, ont fait beaucoup de progrès ces dernières années. Elles sont de plus en plus utilisées pour traiter les blessures sportives et notamment les blessures du bassin. Le laser, c'est un peu la star du moment. Comment ça fonctionne exactement? Est-ce que ça chauffe la peau?
Non, pas du tout. Le laser n'est pas thermique. Il n'y a aucune sensation de chaleur.
Ah bon?
Le principe, c'est la photobiomodulation.
Okay.
Le laser émet une lumière spécifique qui est absorbée par les cellules du corps. Cette lumière stimule l'activité métabolique des cellules, ce qui accélère le processus de guérison.
C'est fascinant. On dirait la science-fiction. Et concrètement, quels sont les effets du laser sur les blessures du bassin?
Le laser aide à réduire l'inflammation, à stimuler la production de collagène et à accélérer la régénération des tissus musculaires et ligamentaires. C'est une technique non-invasive indolore et qui a fait ses preuves dans le traitement de nombreuses blessures sportives. Par exemple, on l'utilise souvent pour traiter les tendinites, les bursites ou les entorses.
Et la thérapie par onde de choc, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on utilise le même type de laser?
Pas du tout. La thérapie par onde de choc utilise des impulsions acoustiques de haute énergie pour créer des micro-traumatismes contrôlés dans les tissus.
Ouais.
Ces micro-traumatismes déclenchent une réaction inflammatoire qui stimule le processus de guérison. C'est un peu le principe du mal par le mal, mais en version high-tech.
Ah oui, je vois. On donne un petit coup de fouet au corps pour qu'il se remette en marche. Et pour quel type de blessure du bassin utilise-t-on les ondes de choc?
Les ondes de choc sont particulièrement efficaces pour traiter les tendinites chroniques, les bursites et les douleurs musculaires persistantes. On les utilise aussi pour traiter les points, trigger ces nœuds musculaires douloureux qui peuvent limiter la mobilité et causer des douleurs référées.
D'accord.
En gros, les ondes de choc permettent de décoincer les tissus et de relancer la circulation sanguine dans la zone blessée.
Donc le laser et les ondes de choc, ce sont deux armes puissantes pour stimuler la guérison des tissus.
Oui.
Mais est-ce qu'on peut aussi agir directement sur la structure du bassin?
Je pense à l'ostéopathie, par exemple. Est-ce que c'est une approche complémentaire?
Absolument. L'ostéopathie est une approche manuelle qui peut être très utile pour traiter les blessures du bassin. L'ostéopathe est un spécialiste du système musculo-squelettique. Il utilise des techniques manuelles pour diagnostiquer et traiter les restrictions de mobilité et les dysfonctionnements articulaires.
Donc l'ostéopathe va remettre les choses en place, pour ainsi dire. C'est un peu comme un mécano du corps.
Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. L'ostéopathe va utiliser des techniques douces et précises pour réaligner les os du bassin, détendre les muscles tendus et restaurer la mobilité articulaire. L'ostéopathie est particulièrement utile pour traiter les dysfonctions de l'articulation sacro-iliaque, une cause fréquente de douleurs lombaires et pelviennes.
Et en plus de l'ostéopathie, est-ce qu'il y a d'autres techniques manuelles qui peuvent être utilisées?
Oui, il y a la libération myofasciale, une technique qui vise à relâcher les tensions dans les fascias, ces fines membranes qui enveloppent les muscles et les organes.
Imaginez un vêtement trop serré qui comprime vos muscles. La libération myofasciale permet de défroisser ce vêtement et de redonner de l'espace à vos muscles.
Okay.
Il y a aussi l'utilisation du percuteur de précision, un outil qui permet d'appliquer des micro-ajustements ciblés sur les zones de tension musculaire.
On dirait qu'on a un arsenal thérapeutique complet. Mais est-ce que c'est tout? Y a-t-il d'autres approches pour traiter les blessures du bassin?
Oui, il ne faut pas oublier l'importance de la rééducation fonctionnelle. C'est la pierre angulaire du retour à la performance. Mais avant de parler de rééducation, on va faire une petite pause.
D'accord.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre deep dive. On reprend notre deep dive sur les blessures sportives du bassin. Juste avant la pause, on parlait de l'importance de la rééducation fonctionnelle.
Oui, la rééducation, c'est souvent ce qui rebute les patients.
Oui.
On a envie de retrouver notre niveau rapidement, mais on sait qu'il faut y aller progressivement. Parlez-nous un peu de cette phase cruciale du traitement.
Bien sûr.
On consiste la rééducation personnalisée.
C'est l'idée que chaque blessure est unique, chaque athlète a ses propres besoins. Donc la rééducation doit être adaptée à chaque cas particulier. On ne peut pas appliquer un protocole standardisé à tout le monde. Imaginez un marathonien qui se blesse au bassin et un joueur de basket qui subit la même blessure. Leur rééducation ne sera pas identique car leurs besoins et leurs objectifs sont différents.
Donc on oublie le copier-coller.
Oui.
Mais concrètement, comment on personnalise cette rééducation? Par où on commence?
Tout commence par une évaluation approfondie du patient, son historique médical, ses antécédents sportifs, le mécanisme de sa blessure, ses capacités physiques, ses objectifs, etc. On prend tout en compte pour élaborer un programme sur mesure.
C'est un peu comme un costume taillé sur mesure, chaque détail.
Et ensuite, comment ce programme se déroule-t-il? Est-ce qu'on attaque tout de suite les exercices intensifs?
Non, il faut y aller progressivement. Le programme est généralement divisé en plusieurs phases. On commence par la phase aiguë, juste après la blessure, où l'objectif est de contrôler la douleur, l'inflammation et de protéger les tissus endommagés. Ensuite, on passe à la phase de récupération active où on commence à mobiliser doucement le bassin, à renforcer les muscles et à améliorer la flexibilité. On utilise des exercices adaptés qui ne sollicitent pas trop la zone blessée, mais qui permettent de maintenir une certaine activité physique.
Et j'imagine qu'on augmente la difficulté des exercices au fur et à mesure que le patient récupère.
Exactement. L'objectif est de retrouver une amplitude de mouvement complète, une force musculaire optimale et une bonne stabilité du bassin. On ne veut pas seulement guérir la blessure, on veut aussi prévenir les récidives.
Oui.
Et pour cela, il faut que les muscles qui soutiennent le bassin soient forts et endurants.
Et la dernière phase, c'est le retour au sport. C'est le moment tant attendu par tous les athlètes.
Oui, mais pas n'importe comme. Avant de reprendre la compétition, on passe par une phase de réathlétisation où on prépare le corps aux exigences spécifiques du sport pratiqué.
D'accord.
On travaille la puissance, l'explosivité, l'agilité, la coordination en fonction des besoins de l'athlète. On veut qu'il retrouve son niveau de performance, mais sans prendre de risques inutiles.
C'est donc un processus long et complexe qui demande beaucoup de patience et de discipline de la part du patient.
On n'est pas à l'abri d'un petit coup de mou.
C'est certain. La rééducation, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut du temps, la persévérance et une bonne collaboration entre le patient et l'équipe soignante. C'est un travail d'équipe.
Et d'ailleurs, en parlant de collaboration, est-ce que vous pouvez nous parler de l'équipe qui entoure le patient pendant sa rééducation? Qui sont les acteurs clés de ce processus?
Bien sûr. L'approche multidisciplinaire, c'est la clé d'une rééducation réussie. On a le médecin du sport qui supervise le traitement, le kinésithérapeute qui prend en charge la rééducation fonctionnelle, l'ostéopathe qui travaille sur les restrictions de mobilité, le naturopathe qui conseille sur l'alimentation et la gestion du stress. Et bien sûr, on n'oublie pas le coach sportif qui accompagne l'athlète dans sa préparation physique. Chacun apporte son expertise et sa vision pour aider le patient à retrouver son plein potentiel.
C'est une véritable équipe de choc. On comprend mieux pourquoi le docteur Desforges insiste sur cette approche multidisciplinaire. C'est en combinant les expertises de différents professionnels qu'on peut offrir aux patients une prise en charge globale et optimale. Bon, on a parlé de traitement de rééducation, mais maintenant, la question qui brûle les lèvres de tous les athlètes, comment éviter ces fameuses blessures du bassin? La prévention, c'est possible.
Bien sûr que oui. Et c'est même primordial, on peut agir sur plusieurs facteurs pour minimiser les risques. C'est beaucoup plus facile de prévenir une blessure que de la soigner.
Alors donnez-nous vos meilleurs conseils de prévention. On prend des notes.
Tout d'abord, il faut s'assurer d'avoir une bonne technique sportive.
Oui.
Des mouvements mal exécutés, c'est la porte ouverte aux blessures. Donc on n'hésite pas à se faire conseiller par un coach qualifié pour apprendre les bons gestes. Un bon coach, c'est l'investissement le plus rentable pour un athlète.
Absolument. Un bon coach à vaut de l'or. Et ensuite, il faut renforcer les muscles qui stabilisent le bassin, les fessiers, les abdominaux, les muscles du dos. On intègre des exercices spécifiques à son programme d'entraînement en veillant à bien solliciter tous les groupes musculaires. On muscle son bassin pour le blinder. Et en plus du renforcement musculaire, il y a d'autres choses à faire.
Oui, il ne faut pas négliger la flexibilité. Des muscles raides et contractés, c'est un facteur de risque important. On s'étire régulièrement en insistant sur les muscles ischio-jambiers, les fléchisseurs de la hanche et les adducteurs. Et bien sûr, on n'oublie pas la récupération. Le repos, c'est aussi important que l'entraînement en accorde à son corps le temps de récupérer après les efforts. On dort suffisamment, on gère son stress, un corps fatigué et plus vulnérable aux blessures. Et on n'oublie pas de bien s'hydrater. L'hydratation, c'est la base d'une bonne récupération.
On a une bonne technique sportive, on renforce nos muscles, on s'étire, on se repose, on s'hydrate. On est paré pour éviter les blessures du bassin baie distant. On est invincible.
Presque. Il reste un dernier conseil, peut-être le plus important, c'est de l'écouter son corps. On ne force pas. Quand on a mal, on respecte les signaux d'alarme. On consulte un professionnel de santé dès qu'on ressent une douleur. Suspect, notre corps nous parle, il faut savoir l'écouter.
C'est le message le plus sage qu'on puisse donner. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On a vraiment plongé en profondeur dans le monde des blessures sportives du bassin. J'espère que nos auditeurs auront appris plein de choses. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos expériences et à vous renseigner sur les différentes approches thérapeutiques. La santé, c'est une affaire de collaboration. Et sur cette note positive, on arrive à la fin de notre deep dive. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, prenez soin de vous et d'votre bassin.